Donc merci d'être venu et de participer à une crypto partie. Le nom, il fait un petit peu. Alors déjà, c'est en anglais. Crypto, déjà, on pense à des trucs. C'est un peu noir. Qu'est-ce qu'une crypto partie? Il y a une traduction française et elle est vraiment dans l'esprit du terme anglais. C'est une chiffre au fait. D'abord, on est là pour vous expliquer comment fonctionne l'informatique. Tout simplement parce que l'informatique fait de plus en plus partie de notre vie de tous les jours, que cela soit quand on s'en sert ou quand on fait un acte qui requiert un système informatique. Et sans le vouloir, ça peut être en prenant le bus, ça peut être en allant acheter quelque chose. Il y a de l'informatique derrière, donc ça signifie que vous laissez des traces sur ces systèmes informatiques-là. C'est tout à fait normal. Mais cela a d'autres implications, notamment qu'on peut savoir ce que vous faites, à quel moment, et indirectement, vous pourriez penser ou ceux avec qui vous discuterez. Donc, une crypto-partie a principalement pour but de vous aider à protéger votre identité et à faire en sorte que, justement, vous ne disséminez pas trop d'informations trop personnelles sur vous pour, justement, éviter qu'il y ait des personnes trop indiscrètes qui s'y intéressent. Et enfin, à partir de là, comprendre les implications juridiques et politiques sur les lois qui sont faites vis-à-vis d'Internet ou vis-à-vis des usagers d'Internet. Et les usagers d'Internet, eh ben, c'est vous, c'est moi, c'est pas que les terroristes, les pédophiles et les autres vendeurs de drogue. C'est vraiment l'ensemble de la population dans notre société. Alors, là, je vous ai fait un dossier, une explication en plein. Moi, je vais maintenant vous expliquer en creux ce que n'est pas une crypto-partie. La première des choses, c'est qu'on n'est pas là pour vous dire il faut arrêter de communiquer avec vos proches. Non, on va vous expliquer qu'effectivement, quand vous communiquez avec vos proches, il y a de forts risques que vous dites des choses et que d'autres personnes les écoutent. On est là pour vous expliquer comment vous pouvez reprendre de la confiance quand vous communiquez avec vos proches et comment vous pouvez communiquer en toute confidentialité. On n'est pas là non plus pour réparer votre PC. Parce qu'il y a des gens qui viennent des fois avec leur tour et qui disent ah « ben, je peux plus imprimer, je peux plus utiliser mon ordinateur ». Non, non, c'est pas notre rôle. À vrai dire, nous-mêmes, on n'est pas très bons. Hein. Par contre, si vous voulez en savoir plus pour réparer votre ordinateur, il y a des associations qui font ça très bien. Je pense notamment à l'association Tout Libre, et qui d'ailleurs, dans 3 semaines, organise le Capitole du Libre. C'est pas très loin d'ici, ce sera à l'ENSET. Et qui est là justement pour aider les gens à comprendre, à maîtriser leur ordinateur. On n'est pas là pour des activités illégales. Que cela soit clair. Vous ne nous verrez pas mettre des gants ou mettre une cagoule pour faire des choses sur notre ordinateur. Non. D'abord, si on faisait quelque chose d'illégal, on ne mettrait pas une cagoule et des gants pour aller taper sur un ordinateur. Il n'y a que les gens du Point ou de l'Express qui encore croient ça. Non, la réalité, c'est qu'on est là pour vous expliquer des choses qui sont un usage tout à fait normal de votre ordinateur et qui sont tout à fait légales. Quand on va vous parler tout à l'heure du dark web, peut-être, quand on traduit ça sous le nom de Internet clandestin, c'est faux, ça n'a rien de clandestin, c'est un usage normal d'Internet. Et peut-être que vous le faites déjà sans même vous en rendre compte. On n'est pas là non plus pour modifier un compte Facebook. Si jamais votre ex a des photos de vous dans des positions compromettantes et plutôt dénudées et que vous êtes, et que cette personne a décidé de les poster sur le compte Facebook, non, on ne saura pas les supprimer. Que les choses soient claires, la chose qu'on vous dira sera plutôt de porter plainte à la police, qui seront 100 fois plus compétents que nous. Et enfin, on n'est pas là pour un projet de start-up. Oui, parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir et qui disent « Alors j'ai une super idée, etc. Ouais, laissez-moi deviner, c'est un clone de Facebook. » Comment vous avez deviné ? On vient souvent nous le dire, à vrai dire, si on avait un projet de start-up, on le ferait nous-mêmes. Et d'un autre côté, on n'est pas là non plus pour vous vendre quelque chose. On ne fait pas des conférences gratuites pour vous vendre derrière des prestations. Parce que si on faisait ça, légitimement, vous n'aurez aucune confiance vis-à-vis de ce que l'on va vous dire. Et on le sait, parce que nous-mêmes, on aurait le même réflexe. Et en fait, on est un peu, plus ou moins, comme vous. La seule chose, c'est qu'on est riche d'un savoir et qu'on essaie de le partager. Parce que pour nous, c'est très important. Pour en revenir un petit peu sur les raisons historiques pour lesquelles on fait ça, on va raconter la première crypto-partie, comment elle s'est déroulée. Tout est parti en fait d'une loi qui a été votée en Australie, assez controversée, qui s'appelle la Cybercrime Legislation Amendment Bill. C'était en 2011, et on a dit, pour arrêter les activités criminelles sur Internet, on va exiger des fournisseurs d'accès qu'ils enregistrent tout ce que font les gens sur Internet pendant 2 ans, de les stocker, et que les FAI doivent les fournir sur réquisition de la police à n'importe quel moment. Bon, on va, je vous rassure, hein, on a exactement la même chose en France avec les lois d'état d'urgence, et d'ailleurs c'est passé maintenant dans le cadre de la loi générale. Supposons, vous faites une soirée, vous êtes un petit peu éméché, vous vous retrouvez en cellule de dégrisement. La police peut très bien demander à votre fournisseur d'accès, en Australie, à avoir les données que vous avez envoyées. Et il se trouve que dans les données que vous avez reçues, il y a des emails que vous échangez avec quelqu'un de votre famille, et vous avez le petit cousin à poil en train de prendre son bain. À 2 ans, c'est mignon. Crac, boum, pédophilie. Tout le problème y est là. Il y a une judiciarisation sur vos actes passés et sur des communications qui sont strictement privées, sans qu'il y ait le moindre mal. Donc évidemment, en Australie, il y a eu des tollés, il y a des journalistes, des avocats, des médecins, des syndicalistes qui se sont dit « Non, là, il y a un très gros problème ». Ils commencent à en discuter entre eux sur un réseau social qui s'appelle Twitter. Et il y a des gens qui d'abord se rendent compte que ben, le problème n'est pas uniquement en Australie. Il a lieu aussi aux États-Unis, il a lieu aussi en Angleterre, il a lieu aussi en France, il a lieu aussi en Chine. Et c'est une tendance générale depuis 2001. Et ça s'accélère. Et donc, il y a des gens qui disent, ben, moi, je vais chiffrer mes communications. Moi, je vais chiffrer mon disque dur. Et il y a une journaliste qui s'appelle Ashley Wolf, qui s'intéresse énormément, justement, aux problèmes sociétaux, qui dit, oui, c'est très bien ce que vous dites, mais moi, je comprends pas comment marche mon ordinateur. Vous me dites de chiffrer. Mais expliquez-moi déjà comment il fonctionne. Et après, comment je peux le chiffrer? Rencontrons-nous dans un espace public où l'on peut échanger. Et en fait, en août 2012, a lieu les premières crypto-parties. Et c'est allé extrêmement vite à partir de là. Dès le mois suivant, a lieu à Londres la première crypto-partie. C'était d'ailleurs chez Google. Le même mois, a lieu en Hollande une crypto-partie dans laquelle une personne qui fait des logiciels de chiffrement, qui est assez connue, sort une phrase absolument magnifique, qui, à mon sens, explique bien notre idée. Il s'agit de remettre le personnel dans l'informatique personnelle. Informatique personnelle, c'est quand même le terme avec lequel, ben, justement, on a fait rentrer les ordinateurs dans nos foyers dans les années 80-90, et ce terme, on l'a complètement oublié, parce que maintenant, nos ordinateurs sont en permanence sur Internet, et en fait, il est là, il est de pouvoir reprendre le contrôle sur un outil qu'on a nous-mêmes mis chez nous. Et c'est ça qui est important. En octobre 2012, a lieu la première crypto-partie à Toulouse. Alors ça a lieu dans un hackerspace qui s'appelle le Theta Lab. Alors le hackerspace, pour vous expliquer, c'est les gens qui sont un petit peu allumés, avec des fois quelques bières. Je dis quelques parce que des fois il y en a beaucoup plus. Qui bidouillent avec des circuits numériques, qui font de la soudure, trucs comme ça, qui essaient des trucs, ça les amuse, ça les éclate. C'est en plein milieu de Mixar Miris. Alors Mixar Miris, donc, c'est un collectif associatif d'artistes. C'est une friche artistique. Il y en a qui connaissent peut-être. Il y en a qui sont déjà allés. Parce que pour y aller, honnêtement, c'est boulevard de Suisse. Il n'y a pas beaucoup de transports en commun. C'était en octobre. C'était un mercredi. Il pleuvait. C'est pas très balisé. C'est pas très lumineux. On se dit, bon, les gens vont venir. Et ce soir-là, on a eu une trentaine de personnes qui sont venues. Alors évidemment, il y a les usual suspects, c'est-à-dire les artistes qui sont là, les bidouilleurs. Mais il y avait des journalistes qui étaient présents, il y avait un avocat, il y avait un médecin. Et des gens qui étaient vraiment là parce qu'ils étaient concernés au niveau professionnel et qui disaient « Mais en fait, le problème, il est pour tout le monde. Il est vraiment très grand public ». Et c'est là où on a eu une prise de conscience qu'il fallait faire les crypto-parties dans les endroits les plus accessibles envers les personnes les plus larges possibles. En décembre 2012, toujours, a lieu une crypto-partie à Hawaï, dans une pizzeria. Dans l'arrière-salle d'une pizzeria, il y a une trentaine de personnes. Et ben, il y a un jeune qui a quoi ? Il a 28 ans. Et il explique comment le gouvernement, malgré ce qui est écrit dans la Constitution américaine, écoute et surveille ses citoyens. Et qu'avec des outils très puissants, ils arrivent en fait à documenter la vie des citoyens et ils s'en servent lourdement. Alors évidemment, les gens, ils sont vénères, ils sont là, ils disent, mais enfin, c'est un scandale et tout. Et ce petit jeune, c'était Edward Snowden. Et il l'a pas dit, ce qu'il faisait. Il a raconté, en fait, à ces gens-là, en fait, il leur a dit ce qu'il faisait. Mais il ne l'a pas dit que c'était son boulot. Puisqu'il était sous-traitant d'une entreprise qui travaille pour la NSA pour mettre au point leurs outils. Et il a accès à une documentation énorme. 6 mois après, Edward Snowden avait commencé à prendre contact avec des journalistes, avec Laura Poitras et Glenn Greenwald, et il va laisser tomber sa maison, sa femme, sa famille, ses amis. Il va prendre un avion pour Hong Kong avec un minimum d'affaires et il va tout déballer devant caméra dans un hôtel à Hong Kong et tout le reste est dans le film Citizen 4. Et en fait, grâce à lui, et ben maintenant, on a des preuves qui sont tangibles. Ce sont des documents qu'on est encore en train de consulter sur, justement, tout ce problème de la vie privée qui est continuellement violée, tout simplement à cause d'une politique paranoïaque. Et c'est ça qui est fou. Alors, les règles de la crypto-partie. La première chose, c'est qu'on va vous apprendre à être un petit peu parano avec ce que vous faites sur Internet. À faire attention un petit peu, à ne pas trop donner d'informations. Quand quelqu'un vous appelle et vous dit « Vous avez gagné un canapé cuir, est-ce que vous pouvez donner votre numéro de téléphone, votre adresse, votre numéro de carte bleue ?» Bah oui. La seconde chose sera de recouper les faits. On vous donne des informations, mais honnêtement, on n'est pas parole d'évangile. Hein. Moi-même, je dis beaucoup de bêtises en général. Heureusement, il y a des journalistes qui sont extrêmement sérieux, dont le travail est contrôlé justement par rapport à ce qu'ils écrivent, à ne pas dire de bêtises. Donc il y a énormément d'informations qui sortent dans des quotidiens comme Le Monde, comme Libération. Il y a un journaliste qui fait un excellent travail chez Télérama sur les entreprises qui sont spécialisées dans la surveillance de masse française. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces informations. Et quitte à les avoir, si vous-même, vous commencez à changer un petit peu de comportement, à dire « ah ben je ne veux plus communiquer comme ça avec toi parce que », n'hésitez pas, partagez l'information et expliquez pourquoi il faut faire attention à la manière dont on communique ou à ce que l'on fait sur Internet. Et enfin, ne soyez pas trop parano, parce que sinon ça va se terminer, comme quoi vous allez croire que Raël a loué des avions aux extraterrestres pour tuer à base de chemtrail Johnny Hallyday pour préparer le retour du King. Non, quand même pas. Voilà, donc j'espère que pour ce début, j'espère que j'ai été suffisamment clair, mais vous avez sûrement plein de questions, vous en prie, oui. Brièvement, une crypto-partie, c'est l'idée de partager avec le plus grand public possible nos connaissances pour comprendre comment fonctionne un ordinateur, Internet, et quelles sont en fait les données que vous laissez derrière vous pour éviter justement de donner trop d'informations à des gens qui pourraient vous en vouloir. Et dans les gens qui pourraient vous en vouloir, en fait, il faudrait identifier ceux qui pourraient en fait monnayer vos informations. Il y a bien évidemment, ben il y a des crapules, hein, honnêtement. Je crois que vous avez peut-être entendu parler des arnaques téléphoniques où il y a des gens qui appellent des entreprises et qui disent « je suis votre patron, il faut faire le virement le plus vite possible, etc. » Ben ça, c'est un exemple d'arnaque et en général grâce à les informations qu'ils ont récupérées. Il y a aussi des démarcheurs publicitaires, donc des entreprises qui sont très intéressées pour avoir un maximum d'informations pour vous. J'ai un exemple en tête et qui est vécu plus d'une fois par plus d'une personne. C'est quand une femme dit sur Facebook qu'elle est enceinte. Et là, du jour au lendemain, ses emails, elle reçoit même des coups de fil comme quoi il faut des vêtements, un nouveau prêt pour une nouvelle voiture, des trucs comme ça. C'est effrayant. Et ça, ça veut dire que des gens sont extrêmement intéressés contre vous, puisqu'il s'agit de vous vendre quelque chose et de vous forcer la main, en connaissant ce que vous êtes. Et enfin, il y a un troisième problème qui est celui de la surveillance globale effectuée par les États. C'est pas uniquement l'État français d'ailleurs, hein, c'est plein d'États différents. Si par exemple vous avez un ami qui va aux États-Unis, ben il se fera sûrement fouiller à l'arrivée si jamais il a eu le malheur de dire « ah mais qu'il crève Trump ». Pourquoi ? Parce que ils font un profilage extrêmement précis des gens qui vont arriver aux États-Unis et donc qui remontent l'information en arrière pour voir s'ils présentent un risque. Mais si encore il y avait que ça. Un autre exemple que l'on a, par exemple, c'est une entreprise qui est purement française, qui est spécialisée en fait dans l'écoute de ce que l'on fait sur Internet et qui a vendu ses solutions que nous, objectivement, on appelle des armes numériques. Ils ont vendu à des pays pas très fréquentables. Bon, on a même reçu pour ça, sur un grand tapis rouge, Muammar Kadhafi, pour lui vendre ces solutions-là. Et dès qu'il les a déployées dans son pays, toutes les personnes qui avaient des communications par email où ils remettaient en cause sa position de dictateur, ils les faisaient arrêter et ils leur faisaient couper la main ou ce genre de choses. Donc le problème d'une crypto-partie, c'est que oui, on a différentes menaces et il faut apprendre justement à les gérer. C'est l'autodéfense numérique, purement et simplement.